Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est le 36e pour notre 10e saison. Notre invité est aujourd'hui Chloé Danillon, bonjour.
Bonjour.
Alors Chloé Danillon, vous êtes dans la mouvance carcassonnaise, vous êtes conseiller départemental d'un canton qui s'appelle De la Malepère à la Montagne Noire.
C'est ça.
Pour situer géographiquement les choses. Et vous êtes également une des vice-présidentes du conseil départemental, chargée notamment de la protection de l'enfance.
Oui.
C'est la définition exacte ou il y en a une autre ?
Protection de l'enfance et action sociale de proximité.
Voilà. Là, ça, c'est encore assez abstrait, mais on va rentrer dans le concret pour voir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Donc, ça sera la première partie essentiellement de notre émission Radio Barque. On parlera ensuite également alors de votre canton, la Malepère, dont la Montagne Noire. Alors la Montagne Noire, on en parle assez souvent aussi dans l'actualité parce qu'il y a un projet d'urbanisme et de golf depuis je ne sais combien d'années qui jusque-là n'a jamais abouti mais qui reste assez polémique. On
Tout
y reviendra là-dessus. Et puis dans une troisième partie, j'aimerais également évoquer le PS audois. Aujourd'hui, c'est la situation d'aujourd'hui, parce que vous êtes membre du Parti Socialiste, je crois que vous avez été longtemps en jeunesse socialiste, mais vous êtes toujours membre.
Toujours.
Donc ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui est dedans aujourd'hui. Alors Chloé Danillon, donc vice-présidente du conseil départemental chargée de la protection de l'enfance et de l'action sociale, la protection de l'enfance, c'est quoi exactement dans les compétences du département ?
La protection de l'enfance, ça va être comment on peut venir accompagner des enfants qui, à un moment, on va dire, ne sont plus en sécurité au sein de leur famille. Donc ça, c'est ce que tout le monde connaît, on va dire, c'est tous ces enfants qui sont confiés au département. Mais c'est aussi comment on peut accompagner des familles qui sont parfois en difficulté, mais qui ont tout à fait des bases et qui ont besoin à un moment d'être remobilisées pour pouvoir retrouver leur place de parents. Ça va être l'accompagnement aussi un peu plus général, parce qu'au-delà de la protection de l'enfance, c'est toute la partie aussi qu'on appelle la PMI auprès des tout-petits.
Alors quand vous employez des sigles, s'il vous plaît, expliquez-les.
PMI, c'est la protection maternelle infantile.
Voilà.
Donc c'est on a aussi cette partie-là, mais c'est vraiment comment on vient prendre soin des enfants.
Oui.
Et de leur famille du coup de fait.
Oui, oui, oui. Alors là donc c'est les enfants par rapport à la famille.
Tout à fait.
Il y a aussi un secteur important qui est ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Alors de quoi s'agit-il ?
Les mineurs non accompagnés, ça part sur le même principe, c'est que le département, à un moment, on est responsable de tout mineur où on considère qu'il est en danger ou qu'il est seul. Aujourd'hui, on a en France des petits qui arrivent sur le territoire et qui sont...
Oui, immigrés par l'immigration.
Tout à fait, voilà, qui arrivent, qui ne sont pas d'origine française, qui n'ont pas de papier français, mais qui arrivent en France. On a le devoir, je vais dire, légal, mais on a aussi l'engagement moral, en tout cas nous on le défend comme ça, de les accueillir et de les accompagner, et ils deviennent une responsabilité du département, on les accompagne dans leur cursus jusqu'à leurs 18 ans et même un peu plus s'il y a besoin.
Oui, alors première question que beaucoup d'auditeurs peuvent se poser, comment un mineur non accompagné arrive dans le département de l'Aude après un cheminement probablement très complexe?
Chacun a sa propre histoire, chacun a ses propres raisons aussi, je veux dire. On a entre 150, un petit peu plus, peut-être 170 mineurs aujourd'hui que l'on accompagne.
Oui, quand même, il y a ce nombre-là dans le département.
On en a eu un petit peu plus l'année dernière, ouais. On a eu un petit pic l'année dernière, un petit peu plus. Ils arrivent avec de pays différents et de parcours différents. Il y en a qui fuient la guerre, il y en a qui fuient des conflits.
Mais ils sont seuls, véritablement.
Oui,
non accompagnés, ça veut dire
oui,
ça.
Oui, bien sûr. Ils sont seuls sans famille, c'est-à-dire qu'on on sait que c'est des jeunes qui arrivent sans famille.
C'est eux qui ont pris l'initiative de fuir. En quelque...
C'est jamais simple de connaître leur histoire. Ce qu'on suppose, et on le sait, il y a quand même des passeurs, il y a quand même certains réseaux. On n'est pas toujours, on sait que le jeune, entre le moment où il est pas, le moment où il arrive, on ne sait pas toujours ce qui lui est arrivé. Je pense notamment aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes hommes. Quoi qu'il arrive, quand ils sont ici, ils sont seuls, en tout cas sans parents. Ils peuvent arriver parfois en groupe, hein, parce qu'il y a aussi des affinités qui doivent se créer sur leur chemin. Mais nous, on les accueille, ils sont seuls et du coup, on a le devoir de les accompagner.
Oui, alors ça, c'est une belle formule théorique. Maintenant, concrètement, Chloé Danillon, comment est-ce que ça se passe?
Concrètement, la première des questions que l'on se pose, il y a une mise à l'abri, c'est-à-dire que n'importe quel jeune qui se présente, qui dit qu'il est mineur et qu'il a besoin d'être accompagné, ou un jeune que l'on rencontre qui est mineur, on va le mettre à l'abri, on va faire des démarches pour qu'il soit, on va dire, enregistré auprès de la préfecture, auprès de la gendarmerie, pour voir. Et après, il y a le premier point, c'est de savoir l'âge qu'il a,
Parce
parce
que
que.
il arrive, il est alors, c'est un SDF en quelque sorte,
Bien sûr, ouais.
hein, que quand on le comment est-ce qu'on le découvre?
On le découvre parce qu'un jeune qui vit seul dans la rue, ça se voit.
Oui, c'est ça,
Voilà,
mais
ça se voit. Et puis eux, ils savent aussi, ils ont aussi conscience, ils savent qu'ils peuvent se signaler comme
ah oui,
mineurs, bien
quand
sûr.
même, certains peuvent faire des démarches.
Bien sûr, oui. C'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire que ils viennent aussi chercher un accompagnement. Et s'ils viennent en France, c'est aussi qu'ils savent qui peuvent être accompagnés.
Et où est-ce qu'ils s'adressent de par leur savoir
Ils peuvent aller à la gendarmerie, ils peuvent aller à la préfecture, ils peuvent venir directement au département, ils peuvent aller voir une association s'ils savent qu'elle existe. Quoi qu'il
Il y a
arrive,
plusieurs
on signe.
canaux,
Bien
quoi,
sûr,
possible.
oui. Le but, c'est de savoir qu'ils signalent leur présence. Et après, je vous disais, il y a cette question de la première qui est de définir leur âge. Donc, soit il y a des pièces d'identité.
Pour être sûr qu'ils sont bien mineurs.
Bien sûr, oui, parce que nous, on nous accompagne. On aimerait bien, enfin, en tout cas, moi, mes valeurs me font dire que j'aimerais bien pouvoir accueillir tout le monde. Mais de fait, on accueille des enfants. Donc, on veut avant tout s'assurer qu'ils sont mineurs. Voilà. Et
Oui,
du moment qu'ils
de
sont
par la
mineurs, ils
loi.
rentrent dans le circuit normal.
Oui.
Ceux qui sont considérés comme majeurs, on leur laisse 2, 3 jours, on les oriente vers des associations qui accompagnent les réfugiés. Et
Mais
du
le
coup, ils
traitement
sortent
ne
du.
sera pas le
Bien
même.
sûr, non, ils sortent du dispositif, ils ne sont pas accompagnés par le département.
Alors revenons donc dans ce dispositif.
Ouais.
Maintenant, concrètement, la première chose, il faut leur trouver un toit.
Bien sûr. Donc ça, on travaille avec une association principalement qui a pris cette mise à l'abri, je vous disais, et cette attestation qu'ils sont considérés, qu'ils rentrent dans les cas des mineurs non accompagnés. Il y a une association qui les accueille, qui les accompagne. Il y a plusieurs lieux de vie, il y a des maisons et des petits appartements individuels. Et là, ils rentrent dans un cursus où on va évaluer comment ils vont. On va évaluer aussi la question de leur connaissance du français, ce qu'ils ont envie de faire, l'engagement qu'ils ont au niveau des formations. Et donc là, ils rentrent dans un cursus ils vont à l'école, ils vont apprendre le français pour ceux qui ne le maîtrisent pas encore. Et puis, ils suivent aussi des cursus scolaires.
Oui, de formation. Donc ça, c'est déjà la deuxième étape.
Ouais.
La première pour le logement, donc vous faites, est-ce qu'il y a des structures naturelles qui sont en attente de cette situation au département ou
On a une association spécialisée, voilà. On travaille avec l'ANRAS qui accompagne les jeunes. Ouais.
Oui, voilà, c'est cette association
C'est ça.
qui a cet objectif
Oui,
ciblé.
qui travaille. On l'a délégué à surtout l'accompagnement des
Voilà. Et
mineurs.
qui, pour la logistique, a ce qu'il faut.
Bien sûr.
Donc, par exemple, quel est le parc, si je puis dire, immobilier qui est à la disposition?
C'est l'association qui
C'est
gère, qui
elle
la
qui le,
travaille. Oui,
oui,
bien sûr, en fonction
c'est
des
elle qui le
demandes,
gère.
elle a des structures, on va dire, un immeuble, en gros, qui lui sert de base. Et puis après, je vous disais, elle a des logements un peu diffus de partout sur le territoire et sur les communes qu'elle loue. Il y a un travail que c'est bien sûr avec les bailleurs sociaux aussi.
Oui, voilà, et ça concerne l'ensemble du territoire, encore une fois.
Oui, oui, oui. Alors avec quand même l'intérêt, c'est plutôt de rester sur des pôles un petit peu où il y
Un
a des
peu,
services,
oui.
parce que c'est des jeunes
Oui,
qui ne
parce que
sont
voilà,
pas mobiles,
s'ils sont
donc
dans un
ouais.
village un peu éloigné, ça sera
C'est
plus
plus
difficile
compliqué pour
de
les
leur
démarches.
offrir un avenir.
Oui, pour les démarches administratives, pour aller en formation. Et cette association, elle n'est pas là que pour les héberger. Elle a tout ce travail d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a des éducateurs, des animateurs. On parle de mineurs avant tout, hein. Donc, qui ont un vrai besoin d'être accompagnés.
Alors, la première tâche, probablement, c'est l'apprentissage de la langue.
Oui, bien sûr, oui, parce qu'on est à l'école. Mmh.
Oui, et alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez quelques exemples concrets qui vont illustrer pour l'auditeur ce qui se passe pour un mineur non accompagné venu d'un pays lointain et qui, en général, ne parle pas la langue?
Alors, si... Normalement, si c'est des petits qui à un moment choisissent la France, c'est qu'ils ont souvent quand même une connaissance peu de la langue, je vais dire.
Ou des affinités,
mais ça se passe,
quoi.
Oui, voilà. Ouais, mais ça se passe que nous on a des exemples et on était il y a une semaine ou deux au CFA de Lézignan en 2-3 ans. C'est des jeunes qui parlent, qui maîtrisent la langue française à l'oral, qui ont des très bons niveaux à l'écrit, qui sont dans un apprentissage, qui ont rejoint des entreprises en tant qu'apprentis. Donc, c'est des jeunes qui ont tous... on a à peu près 95% des jeunes qui sortent, des jeunes MNA qui sortent avec soit un diplôme, soit une formation. Donc, c'est y a pas de difficulté trop scolaire.
Pour ce qui est de la scolarisation, donc, appelons-la comme ça, en général, c'est très efficace. Quoi. Ça fonctionne bien. Et alors, on les envoie où? Dans des établissements scolaires particuliers ou
n'importe où.
Oui, c'est-à-dire, ils peuvent, alors, selon leur âge, ils vont aller quoi au collège? Non, c'est pas le collège.
On en a qui ont l'âge d'aller au collège, d'autres qui sont au lycée, d'autres, je vous disais, en centre de formation, donc notamment au CFA de Lézignan. Et le CFA de Lézignan, il y a aussi une classe, voilà, qui permet, on va dire, une classe relais ou passerelle pour les accompagner.
Oui, voilà, il y a quand même un accueil un petit peu particulier.
Oui, mais ça, c'est le dispositif éducation nationale de manière générale. N'importe quel d'accueil, de toute façon, un enfant, c'est pas sa nationalité qui fait qu'il doit aller à l'école ou pas, c'est son âge.
Oui.
Donc, du moment qu'il a l'âge de devoir aller à l'école, voilà. Il a l'obligation.
Sauf qu'il n'arrive pas avec le bagage habituel du français moyen. C'est ça la difficulté, au niveau linguistique, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est déjà cadré par l'éducation nationale, MNA ou pas MNA du département. Quoi,
ça, c'est le job de l'éducation nationale.
Bien sûr.
Et alors, donc, vous citiez une statistique, 95% s'en sortent bien avec tout ce qu'il faut. Et est-ce qu'il y a un suivi?
Sorte avec, en tout cas, une formation de notre dispositif.
Oui, du dispositif. Mmh. Et alors, ensuite, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on a une connaissance de ce qu'il advient de ces anciens mineurs non accompagnés?
Nous, à partir de 18 ans, comme n'importe quel jeune qui aujourd'hui est accompagné dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, on a des jeunes qu'on peut accompagner jusqu'à 21 ans. Après, à partir de 21 ans... on considère, parce que les lois sont faites comme ça, qu'ils peuvent vivre, on va dire, seuls et voler de leurs propres ailes. Donc notre objectif, c'est qu'à 21 ans, ils soient prêts. Mais il y en a beaucoup qui sont, on va dire, entre guillemets, lâchés avant, mais parce qu'ils commencent à avoir un emploi. On a accueilli, il y a 3 ou 4 mois, au département, une exposition d'un travail qui avait été fait par une jeune fille qui était en service civique à la FAOL et qui s'était questionnée justement sur ce qu'étaient devenus ces anciens MNA qui étaient accueillis, qu'est-ce qu'ils étaient devenus, et aussi le regard qu'ils avaient eu sur leur parcours et leur arrivée en France.
Et qui a fait une recherche.
Voilà, donc qui a fait qui a recherché ces jeunes, qui en a fait des portraits photos avec à chaque fois des témoignages. Et c'était super intéressant de voir, on ressentait déjà le... Bon, la première chose qui m'avait marqué, c'était le côté très humain et la reconnaissance, en tout cas l'attachement qu'ils avaient pu avoir des éducateurs, des professeurs, de toutes les personnes qu'ils avaient accompagnées. Et au-delà de ça, on voyait que c'était des jeunes qui avaient des parcours, des boulangers, des cuisiniers, des jeunes qui avaient eu aussi on en a quelques-uns qui préparent des concours de meilleurs apprentis de France, donc qui avaient été arrivés meilleurs apprentis de France, je crois, en boulangerie. Donc c'est principalement des jeunes qui se sont installés, qui vivent ici aujourd'hui et qui continuent de travailler dans la formation dans laquelle ils avaient été au début.
Ce que vous citez, ce sont essentiellement des métiers manuels. Alors on peut comprendre pourquoi ils sont plus attirés par ça, parce qu'il y a quand même le handicap de la langue et de la culture au démarrage. Mais en général, donc, ils trouvent un emploi et ça devient des bons citoyens français normaux, en quelque sorte. Et la nationalité, ils l'acquièrent aussi.
Oui, il faut que...
Systématiquement
c'est... Non.
Non.
Alors, bon citoyen, non, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, après ça, ils rentrent dans un dispositif, on va dire, assez classique de vie. À partir de 18 ans, s'ils font le choix de rester en France, ils font des démarches pour demander une régularisation. Ils ont, c'est des jeunes qui ont souvent déjà en fait un métier, une entreprise qui les accompagne. Alors oui, ça ne veut, c'est, ils vont vers, je vous disais, menuiserie, électricité, beaucoup aussi de métiers en lien avec la gastronomie quand même. Hein. Mm-hmm. Pâtisserie, là, moi, j'étais à Lézignan, on était avec un jeune aussi qui était boucher, qui était pas mal qui sont dans ces formations-là. C'est aussi pour eux, en fait, le problème, c'est qu'à 18 ans, ils vont devoir commencer à se débrouiller tout seuls. Donc, il vaut mieux qu'ils aient un métier et une formation qui soit très professionnalisante. Donc, c'est aussi ça qui est recherché. Et il y en a quelques-uns qui font des études un petit peu longues, mais c'est beaucoup plus rare, en fait.
Oui, on peut le supposer.
Mais ce qu'on remarque et ce qui a été confirmé lors de notre visite au CFA, c'est quand même que les entreprises sont très contentes d'avoir ces jeunes apprentis qui sont présents.
Voilà.
Parce qu'ils viennent répondre à une demande de ressources.
Bien sûr. Ils remplissent des emplois qui étaient vacants, plus ou moins, souvent.
Ouais, ouais. Ouais, mais...
Tout dernier point. Mm-hmm. Au point de vue statistique, est-ce qu'on sait combien reste en France et combien éventuellement poursuivent un cursus ailleurs?
Non, ça je ne sais pas vous dire.
On n'a pas de statistiques. Mais votre impression, c'est quand même que la grande majorité font carrière, si je puis dire, en France.
Il y en a pas mal, oui, il y en a quand même pas mal qui restent, ouais. Ouais, ouais. Après, il y en a d'autres qui ont aussi... qui peuvent se dire que maintenant qu'ils ont une formation, qu'ils ont acquis voilà, une connaissance, ils peuvent rentrer dans leur pays, mais bon, souvent, s'ils ont quitté leur pays, c'était qu'il y avait des très grandes raisons, soit de précarité économique ou de danger, en fait. Donc,
une vraie raison qui perdure.
Oui.
On marque, Chloé Danillon, une première pause.
Oui.